Alors bonjour Mehdi Belhaj-Kassem,
Bonjour.
je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis on va commencer direct. Je souhaiterais que l'on parle de vos deux derniers livres qui viennent de paraître ensemble, qui sont donc Événements et répétitions et L'Affect. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qui a été à leur point de départ? Je crois qu'ils ont fait l'objet d'un séminaire, c'est ça?
Le séminaire, il s'est fait très vite et très spontanément. Il y a eu cette découverte, disons, pour moi fondamentale de l'être et l'événement, et vraiment d'Alain Badiou, qui est le livre de référence de plus en plus reconnu comme tel, mais très difficile à lire, donc c'est lent à se dégager, mais ça se dégage très très nettement, notamment à l'étranger. Et sans trop réfléchir, oui, j'ai commencé un séminaire que j'ai repris par la suite sous diverses formes. Et les livres sont inspirés, oui, de ces séminaires. Ce sont quand même des livres, c'est-à-dire ils sont écrits. Et comme disait Céline, il faut un énorme travail sur l'écriture pour rendre le parler dans l'écrit. Donc c'était un travail pour rendre une certaine chaleur, une certaine dynamique de la parole vive à l'écrit. C'est-à-dire que le lecteur qui achète le livre se retrouve autant que possible dans l'atmosphère de ces séminaires.
Et voilà. Ces séminaires, ils ont eu lieu où et quand?
Ben, comme je le disais ironiquement, c'est un peu des séminaires en chambre. Je suis le seul spécialiste des séminaires en chambre. Donc, ils avaient lieu dans des endroits privés, quoi, dans des appartements divers. Appartements d'amis, notamment le tout premier séminaire qui est une pure et simple introduction à l'être et l'événement, se déroulait dans des appartements qui changeaient à chaque séance, quoi, chaque semaine. Ensuite, c'était dans des lieux plus réguliers. Voilà.
Et le public qui venait?
Le public, c'était des jeunes amis, une moitié de philosophes, étudiants, jeunes étudiants, et une moitié de gens qui, je sais pas, des cinéastes, des jeunes cinéastes, des jeunes écrivains, voilà.
Et il y avait un jeu de questions-réponses, alors j'imagine. Vous deviez être très proche de ceux à qui vous parlez.
Il y a toujours eu un jeu de questions-réponses, oui. Au tout début, quand je faisais simplement l'introduction à l'être et l'événement, c'était une semaine sur deux. Donc une semaine, je faisais mon introduction et bon, ils avaient tellement de choses à digérer que les questions n'étaient pas posées tout de suite. Et la semaine suivante, pour tester que réellement il n'y avait aucun point obscur, aucun doute dans l'esprit des auditeurs, on consacrait uniquement aux questions-réponses. C'était des heures de questions-réponses.
Et cette lecture donc de l'être et l'événement, qu'en est le point de départ, donc l'être et l'événement d'Alain Badiou, elle date de quand pour vous?
J'ai acheté le livre fin 2000, donc c'est 2001. J'ai consacré 4 mois, enfin beaucoup plus que 4 mois, mais enfin 4 mois à ne faire réellement que ça. C'était vraiment un sacerdoce, comme un moine. Je passais 14 heures par jour à lire l'être et l'événement.
Parce que ce livre-là, vous écrivez « Du plus considérable livre de philosophie des 20 dernières années, l'être et l'événement, statue insigne qui ne l'a pas empêché, depuis une décennie et demie de sa parution, de n'être lu que de 3 pelés et un tondu. » Quelque part, c'était vraiment une découverte ce texte, mais c'est vous qui l'avez découvert presque.
C'est une question complexe que vous me posez là, parce que... Bien plus tard, non, je me suis aperçu qu'à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans toutes les facs comme il faut, Badiou commençait très largement à être placé là où il devait l'être. Disons que c'est en France, pour des raisons que nous dirons obscures, il y a une grande occultation de la personnalité et de l'œuvre de Badiou. Elles tiennent à deux raisons. Il y a sa personnalité qui fait que beaucoup de gens font écran pour des raisons complexes, pour des raisons de génération, tout simplement, pour des raisons de tout ce qui s'est passé autour de 68. à la personne de Bayou. Et la seconde raison, c'est que l'être et l'événement est très très difficile à lire, donc le temps qu'il soit lu, parce qu'on ne peut pas comprendre sa pleine portée l'œuvre de Bayou sans connaître l'être et l'événement, qui est vraiment son centre, c'est vraiment le cœur qui irradie tout le reste, quoi.
Alors, Alain Badiou préface justement Événements et répétitions, votre livre qui va avec l'affect, et je la trouve très bien, moi, justement, cette préface. J'y trouve beaucoup de choses. Et il a ces mots qui, pour moi, définissent très bien votre entreprise. Il dit « Mehdi Belhaj-Kassem, je ne vois pas d'autre image pour éclairer sa façon si singulière d'entrer par effraction dans la pensée que d'évoquer l'abordage ». D'ailleurs, le titre de sa préface, c'est un corsaire du concept. Alors, est-ce bien ainsi que vous voyez votre entreprise intellectuelle, entrer par effraction dans la pensée ?
Peut-être par le passé, ça fait longtemps que je ne me pose plus ces questions, mais en effet, je m'aperçois. C'est sur le mode maintenant de l'anamnèse, c'est-à-dire je me rends compte sans cesse que effectivement il y a quelque chose d'incongru dans ma démarche et dans mon irruption, disons, dans le champ de la pensée. Pour moi, les choses se font vraiment naturellement, il n'y a aucune sublimation ou romantisme, fût-ce du corsaire, même si l'image me plaît bien. Tout ça n'est pas réfléchi, si vous voulez, mais par contre, voilà, certains indices de la réception, encore maintenant, hein, ça c'est incontestable que parfois, régulièrement, j'ai l'impression de faire un effet d'un, comment on dit, chien dans un jeu de quilles, ou c'est pas un chien, autre chose, je sais plus. Donc oui, j'accepte l'image, mais l'image est pas voulue. Enfin, elle est pas. Il y a pas un narcissisme du pirate. Voilà. Maintenant, je constate que effectivement, du dehors, il y a quelque chose de. Oui, d'improbable. Ouais. Si j'avais la capacité vraiment de sortir de moi-même, sans doute que moi-même, je penserais. Qu'est-ce que c'est que ce zigoto, voilà, des choses comme ça.
Parce que, juste pour reprendre un peu cette image du corsaire, c'est une image pas très noble, on imagine un peu le corsaire batailleur qui s'emporte vite, qui est prompt à être irrespectueux, et là, quand on est dans vos textes de philosophie, ça peut paraître un peu décalé. Est-ce que vous n'y opérez pas, vous, une désacralisation de la philosophie, ou plutôt des philosophes, hein, dans vos textes, en partant de cette image du corsaire? Je pense par exemple à Heidegger. Enfin, vous écrivez des choses assez assez dures à l'égard de certains philosophes,
hein. C'est plus, mais effectivement, ça fait partie de l'objectivation rétroactive. Bon, comme je le disais au Heideggerien, Heidegger est un des auteurs les plus présents dans ma bibliothèque. Il s'agit simplement de marquer le coup, c'est-à-dire que... Mais là, c'est pareil, c'est un peu trop lourd pour mes épaules de me dire que j'ai découvert Badiou. C'est vrai qu'en France, je n'ai pas trop réfléchi, je savais très peu de choses sur la personnalité de Badiou, ça c'est vraiment avec la lecture que ça s'est fait. Et voilà, c'est... Badiou est le premier à nous sortir complètement d'un espace... que là était pas uniquement dominé par Heidegger, mais enfin,
pour beaucoup,
quand on lit Badiou, on se dit on est sorti de Heidegger. On se le dit pas avec Deleuze, par exemple. Deleuze, on se dit on est à côté. Deleuze a créé une espèce de voie un peu alternative à Heidegger. Mais Badiou, on se dit vraiment on en est sorti, parce que c'est très souvent les mêmes catégories, les mêmes genres de problématiques que Heidegger, mais révolutionné de fond en comble. Ensuite, le style, comme je vous dis, ben rien n'a été réfléchi. C'est ma manière de causer. Voilà, c'est
ma manière, on va y revenir,
ma manière de faire. Et ensuite, par contre, quand c'est écrit, que c'est publié, je suis moi-même, je me dis quand même, tu es allé un peu fort, on n'a pas l'habitude de ce style-là, etc. Mais une fois de plus, tout ça n'est pas très très réfléchi. Ce qui est réfléchi, c'est le contenu. C'est
tout à fait.
Tout ce qui est dit sur Heidegger est pleinement sous-pesé, quoi. C'est un travail de très longue haleine qui est comme ça résumé, par contre, pour que, une fois de plus, les lecteurs qui achètent le livre aient la sensation quasiment d'aller à un séminaire.
Est-ce que cette manière de faire, cette manière de l'écrire, ce que vous pensez, est-ce que c'est pas ça être anti-philosophe, quelque part? Vous employez
le
terme.
Je dirais que c'est le temps qui jugera du fait que je sois anti-philosophe ou pas, mais maintenant, ça c'est une... Bon, premièrement, la question de la désacralisation de la philosophie, oui, c'est évident que c'est toujours un peu politique, disons. Il s'agit de désinhiber tout un public, disons, qui n'y a pas accès ou qui est rebuté par l'apparente difficulté, qui n'est pas, enfin, l'apparente, la vraie difficulté philosophique, mais qui ne soit pas rebuté, qui est une espèce de... Ceci d'une part. Ensuite, l'antiphilosophie, ben, c'est la question de... Voilà, la philosophie en général et pour ce qui est de l'époque contemporaine, la philosophie de Badiou donc en particulier, a opéré un changement en moi, ça c'est sûr. Maintenant, à 31 ans, avec le parcours que j'ai, il ne peut pas y avoir une espèce de métamorphose absolue qui équivaudrait tout simplement à la mort, quoi.
Tout à fait.
J'ai beau être très très téméraire dans mon piratage général qui ne se réduit pas à la philosophie. Il faut pas trop brûler les étapes et il y a un véritable devenir dans ces livres par rapport à mes livres précédents, mais enfin je reste quand même, si je suis parti de la littérature avec toujours une présence physique très forte dans les livres, ensuite là il y a une position d'énonciation qui est celle du séminaire, mais c'est les premiers livres où je fais pas une sorte de... Par exemple, dans Esthétique du chaos ou Society, c'était des sortes de romans conceptuels. C'est-à-dire, j'écrivais encore des romans, des récits quasi autobiographiques, dans un langage conceptuel. Alors ça, c'était très clairement, c'est presque une nouvelle définition, mais elle n'est pas si neuve, parce que Kierkegaard faisait ça, bien mieux que moi, évidemment, de romans conceptuels, c'est-à-dire de faire des récits racontés avec des concepts. Là, il y a un pas encore qui est franchi. Là, on est vraiment dans le concept, dans la philosophie, c'est-à-dire j'essaie de produire quand même des concepts qui valent pour tout le monde. Et il n'y a pas particulièrement de récit d'expérience subjective, même si parfois on peut avoir l'impression que c'est le cas, mais ça n'est réellement jamais le cas.
Tout à fait.
Donc là, c'est plutôt la mise en scène, la position d'énonciation qui fait que il y a une présence subjective très forte. Alors, pour toutes ces raisons, hein, très complexes et entremêlées, en effet, Badiou dit anti-philosophie, parce que l'anti-philosophe, il y a beaucoup de définitions, mais enfin, une des définitions canoniques de l'anti-philosophie selon Badiou, qui a repris à Lacan, c'est la présence subjective. Disons, l'anti-philosophe est celui qui met sa philosophie à l'épreuve de lui-même. Alors, quelque chose, Badiou m'a dit quelque chose qui m'a fait assez plaisir, et surtout qui m'a éclairé, il m'a dit d'habitude les antiphilosophes font l'antiphilosophie de leur philosophie, c'est-à-dire c'est des gens comme Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, Lacan, Pascal, déjà, c'est des gens extrêmement philosophes à la base, mais qui éprouvent le besoin, qui est une espèce de devoir éthique, de mettre en danger leur philosophie par eux-mêmes, en disant est-ce que ça marche au niveau subjectif. Et au niveau subjectif, pas en général, pas une théorie du sujet qui vaille pour tout le monde, comme il y en a chez Badiou, mais réellement, est-ce que ça marche pour moi? C'est un peu schématique ce que je dis, on va pouvoir dire ça. Et il m'a dit, vous faites la philosophie de votre antiphilosophie, en tout cas dans ces deux livres, c'est-à-dire que je reste intérieurement, on pourrait dire nihiliste, au sens... je ne suis pas au fond, mais je ne sais pas, je me lève le matin, je prends mon café, j'allume ma cigarette, j'ai encore du mal à réellement dépasser tout ça. Donc je suis anti-philosophe à la base, au sens où toute philosophie est pour moi à la base mise en question par quelque chose comme l'expérience, l'empiricité, je ne sais pas. Et c'est bien normal venant de là où je viens. Écrit ce que j'ai écrit avant.
On va y venir après, tout à fait, à ces changements. Donc, on a eu l'image du corsaire, de l'antiphilosophe. J'aimerais en ajouter une, plus personnelle. C'est celle de l'image du jongleur, celui qui jongle avec les concepts philosophiques, qui jongle avec les textes des philosophes, jusqu'à parfois donner une impression de tournis. Qu'est-ce que vous pensez de cette image du jongleur? Est-ce qu'elle peut s'ajouter à ces autres images?
Et à vrai dire, parallèlement à l'antiphilosophie, c'est évident que encore une fois, de manière pas réfléchie, et même pas provocatrice, malgré tout ce qu'on pourrait croire, tout est très... c'est simplement inscrit dans un espace très particulier, une espèce de no man's land où on fait de la philosophie dans des endroits qui sont pas faits pour ça, tout simplement. Donc, parallèlement à l'antiphilosophie, je parlerais volontiers d'antiscolastique, quoi. Donc, cette image du jongleur, du vertige, oui, elle m'a été même reprochée, je dirais, par des philosophes. Tout simplement, on n'écrit pas de la philosophie comme ça d'habitude. Soit ça va trop vite, soit il n'y a pas assez de notes en bas de page ou des choses comme ça. Donc, jongleur, je ne sais pas si c'est l'image la plus juste, mais oui, je peux l'accepter. Oui. Je peux l'accepter dans la mesure où, en effet, je revendique un mode d'exposition singulier. Ouais.
Très bien, alors on va passer à une autre partie, ça va être c'est un de mes thèmes favoris pour l'émission, c'est celui de la lecture, parce que vous êtes un grand lecteur. Mais juste avant d'en parler, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans 3 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de littérature, avec ce soir en invité Mehdi Belhaj Kassem au téléphone, et on en était arrivé à ce thème de la lecture, parce que vous êtes un grand lecteur. Alors, ma question, c'est comment est-ce qu'on se met à lire de la philosophie en n'ayant pas de formation philosophique?
Très honnêtement, j'ai aucune réponse à cette question.
Alors, je vais la poser peut-être.
Peut-être que c'est Nietzsche qui m'a, comme pour beaucoup de monde, je pense, dans ma situation, Nietzsche m'a été le déclencheur. Oui, le déclencheur, non pas de lecture de la philosophie, j'en lisais déjà par ailleurs, mais l'envie d'en faire, l'envie d'y intervenir. Et sans par ailleurs trop me poser la question de la formation.
C'est-à-dire que en lisant ces derniers textes-là, Événements et répétitions, en lisant l'Affect, mais en lisant également Society, on imagine qu'il y a eu un très gros travail de lecture de philosophique qui a été réalisé. Donc ça, presque je pourrais vous demander au quotidien comment ça se passe, ce travail de lecture qui a l'air vraiment très important, enfin en taille notamment.
Travail,
quoi.
Mais cela dit, c'est la seule clé. Hein. Je crois que je suis très bosseur, comme le voit bien Padiou. Mon désœuvrement fait que je compense par une compulsion de travail. J'ai toujours été très travailleur, et en particulier pour la philosophie, c'est très simple, hein, on lit plus mal à main. Et cela dit, j'ajoute que je ne passe pas par les commentateurs. Je vais directement au texte. Quoi. Je lis Aristote dans le texte, plus mal à main. Je lis, j'ai lu Kant. Dans le texte plus mal à main, Husserl, pareil. Je crois que c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Il faut aller directement au texte. Il faut tout simplement beaucoup travailler. Voilà.
D'accord. Parce que, d'ailleurs, Badou, dites-vous, or, qui est seul n'a d'autre ressource de pensée que le travail. Ce désœuvré théorique est un travailleur acharné. Donc c'est vrai que lui-même le dit. Vous écrivez également dans Événements et répétitions, qui a lu qui, tel a toujours été l'un des secrets essentiels de la philosophie. Alors ma question, c'est comment cette masse de lecture fabrique vos textes. Je reviens un peu sur cette image du jongleur quelque part. Comment est-ce que vous vous démenez avec cette masse de lecture pour le réinjecter dans vos textes?
Thomas Bernhard disait dans ses livres autobiographiques que quand je lis, je n'écris pas, et quand j'écris, je ne lis pas. Et c'est un tout petit peu exagéré, parce qu'en particulier en philo, on prend un certain nombre de notes, souvent, quand on lit, encore que pas tant que ça, pour mon cas, sauf pour les textes vraiment un peu canoniques, formateurs, où là je prends énormément de notes, les très événements, j'ai des milliers de pages de notes, parce que c'est un livre moderne, donc tout est à faire. Kant ou Aristote, y en a d'autres qui l'ont lu avant vous, alors quand vous lisez les très événements, et vous êtes persuadé que c'est quelque chose de cette dimension-là, vous prenez beaucoup plus de notes. C'est certainement, j'ai du mal à vraiment.
Alors je vais préciser encore. Ce travail de lecture qui apparaît dans vos textes philosophiques,
oui.
Il n'apparaît pas dans vos romans.
Ou du moins, il
ne voit pas.
C'est ce que je voulais dire. C'était le sens de cette hésitation dans ma phrase. Que ça se passait différemment en littérature et philosophie, et puis en y pensant, je me disais, ah mais non, pas tant que ça. La discussion fait partie de la philosophie, si vous voulez. Je suis venu à la littérature parce que j'étais très solitaire dans mon adolescence, donc c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup lire, et que par ailleurs, à un moment, j'ai eu envie de, de, m'y mettre aussi et de rendre compte de ma propre expérience. La discussion ne fait pas partie, en tout cas pas directement, de la littérature. Et une des raisons, il y a beaucoup de raisons qui m'ont amené à la philosophie, comme ça par ce glissement auquel vous faisiez allusion, il y a beaucoup de bonnes raisons, quelques mauvaises raisons aussi. Une des raisons, c'était vers 23, 24, 25 ans, je me suis dit, c'est 23 ans, disons, au moment où la décision a commencé à se dessiner, je me suis dit, quand même, tu es très seul. il faut que tu ailles vers quelque chose qui te donne la communauté. Alors c'est passé par bataille notamment, parce que la question de la communauté était thématisée.
Tout à fait, oui.
Donc voilà, tout ça a été fait de manière un peu aveugle, mais c'est un peu comme l'objet cause la gagne, hein. C'est à la fin qu'on se rend compte quelle était la cause de votre désir, et puis tout ça donne juste un trajet. C'est le trajet qui compte et pas l'objet lui-même qui a mis en mouvement, parce que à la fin vous avez votre réponse et vous voyez pourquoi en effet dans la philosophie la discussion est omniprésente. Enfin, c'est pas par hasard que Platon a écrit sous forme de dialogue.
Ouais.
Donc la solitude au sens empirique, je l'ai pas tant rompu que ça. En fait, je l'ai rompu dans un autre sens, en passant simplement à la philosophie où la discussion est quelque chose d'omniprésent, tandis que la solitude, disons, physique, empirique de la littérature est redoublée par la solitude de l'écriture elle-même. Mais après, c'est pour ça que c'est pas aussi simple. Est-on vraiment seul quand on écrit même de la littérature? Oui et non. Est-ce que Beckett est seul quand il écrit L'innommable? On a l'impression. La double impression, à la fois la solitude la plus dramatique qu'on ait jamais rencontrée, et en même temps une sorte de surpeuplement, quoi.
D'accord.
C'est pour ça qu'il écrit Le dépeupleur après, c'est toujours
oui.
Le peuple dont il parle, c'est pas un peuple abstrait non plus, c'est évidemment exactement le même peuple que nous rencontrons tous les jours dans la vie dite courante, quoi.
Alors, vous lisez aussi bien la philosophie des auteurs morts que des vivants, c'est aussi une de vos caractéristiques. On a cité Alain Badiou, mm-hmm. On aurait pu citer aussi Jean-Luc Nancy, là vous avez parlé de communauté, mm-hmm. que vous citez beaucoup, Jean Baudrillard également. D'ailleurs, Jean Baudrillard et Jean-Luc Nancy, ils apparaissent souvent dans Society, par exemple. Est-ce qu'à l'époque où vous écrivez Society, ces deux auteurs-là vous ont influencé? Peut-être en termes de méthode, ça se trouve.
Baudrillard, pas tellement. C'est compliqué, Baudrillard, c'est trop singulier. Je le définirais plus comme un théoricien que comme un philosophe. Cela dit, je lis plus Baudrillard depuis longtemps, mais ses concepts, notamment celui de simulacre, c'est particulièrement intéressant de se demander pourquoi le simulacre a tellement marché, disons, dans les années 80, et j'ai consacré un texte récemment à ça. Dire pourquoi ça a marché, le simulacre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant malgré tout dans ce concept, et justement, lui qui essaye d'échapper, qu'est-ce qui peut défier, pourquoi je dis théoricien, c'est précisément Baudrillard est quelqu'un qui veut à tout prix échapper à la discussion, il n'y a pas de discussion dans Baudrillard, il est vraiment dans son espace à lui, et Jean-Luc Nancy, par contre, oui, c'était plus formateur et plus influent, notamment pour Society, j'essayais d'apporter ma contribution à cette question de la communauté.
C'était presque une contribution après Blanchot et
après
Nancy
Bataille,
qui a écrit
après Blanchot, après
voilà.
Nancy, après Agamben, après même Derrida dans Politique de l'amitié. Voilà. Comme il y avait diverses expériences, comme je vous le disais. La philosophie au prétexte de la communauté ou le contraire, il s'agissait de pas devenir fou, quoi, tout simplement. Après l'antéforme, je me suis quand même retrouvé dans une espèce de solitude presque psychotique, même si ça allait. Enfin, je j'avais pas interné, mais enfin, c'était une solitude absolument extrême. Et voilà, je me suis dit, tu vas devenir fou, il faut aller donc la philosophie au prétexte de la communauté ou l'inverse. Et il s'est produit des micro-événements, des grands événements subjectifs de rencontres, d'amitié, de collectifs qui ont donné bon, la revue dont vous parliez au début.
Evidence, oui.
Ensuite, la rencontre avec une autre communauté.
Autour de la revue
Ligne.
Qui
essayent, disons, de croiser les situationnistes et Foucault et Agamben. C'était une revue, ils avaient une revue qui s'appelait Tikkun.
Ah, d'accord.
Donc voilà, Society d'accord. rendait compte de toute cette expérience, à vrai dire, à la fois très intense et très difficile de la communauté.
Alors, on va juste. J'aurais juste une dernière question pour parler de la lecture et après on va parler de votre écriture, de la langue avec laquelle vous vous exprimez. Mais puisqu'on reste sur la lecture, dans cette émission, à chaque fois, je questionne sur la lecture qui est faite de l'œuvre de Pierre Guyotat.
Oui.
Et je crois que, enfin, vous m'avez dit que vous l'avez lu
oui.
que vous l'appréciez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de l'œuvre de Guyotat? Enfin, quelle lecture vous en avez faite? Qu'est-ce que vous en avez tiré?
Bizarrement, Guyotat m'a peut-être, enfin, il y a eu à ce moment-là en plus un contresens parce que quelqu'un est allé lui dire, enfin peu importe, des petites broutilles personnelles, enfin lui dire des choses fausses. Donc il a, mais bizarrement c'est plus avec Esthétique du chaos, c'est-à-dire dans Esthétique du chaos qui est encore un livre très jeune, j'avais une espèce d'utopie quasiment de faire subir à la philosophie que des gens comme Guyotat ou Joyce avaient fait subir la littérature. Et bizarrement, c'est pas du tout, alors que j'avais déjà lu, j'ai lu Guyotat très tôt, c'est pas tellement dans la période dite littéraire que, au contraire, même consciemment, une des premières questions qu'on m'a, justement Thierry Guichard, qui est un habitué de votre émission, m'avait posé, je me souviens très bien, la question de l'influence de Guyotat, et j'avais dit que non, consciemment, je refusais l'influence de Guyotat, pour des raisons, qui sont celles qui m'ont amené à la philosophie, bizarrement. Je reconnaissais plus chez Anton Artaud, chez Bataille, ce vers quoi je voulais tendre, c'est-à-dire une littérature qui pense, ou une pensée littéraire, une espèce de pensée en direct, qui pourrait être la définition, une des autres définitions de l'antiphilosophie. Une des choses auxquelles je pense, c'est Artaud, antiphilosophe. Sur la question de l'événement, Anton Artaud est le seul au XXe siècle à avoir répondu à une question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'être un événement? Qu'est-ce qu'être un événement? D'une autre manière, c'est être un événement, ça veut aussi dire être la vérité. Et Pierre Michon en parle très très bien quand il dit de nous tous, Artaud est le seul à ne pas avoir menti. Mais de nous tous, Guyotat compris, Bauhaus compris, je ne sais pas, on peut citer tout ce qu'il y a eu au XXe siècle, et Artaud nous a posé ces questions tout à fait singulières, et nous a montré le prix à payer, c'est bien pour ça que nous ne franchissons pas tous le pas jusqu'à être un événement, il nous a montré le prix à payer. L'influence de Guyotat, voilà, elle était dans l'esthétique du chaos, j'espérais faire subir la langue philosophique, et comme par hasard, il y a eu des débats à la télé et tout ça sur l'illisible, l'incompréhensible, et les deux noms qui étaient cités, c'était Guyotat
et
moi avec Esthétique du chaos. Donc ils lisaient, les gens, voilà, Bec BD, tout ça, ils lisaient des extraits d'Esthétique du chaos pour montrer à quel point c'était insupportable.
C'est assez abject, effectivement.
Guyotat m'a influencé à ce moment-là. Ensuite, ben, Guyotat, c'est une expérience de lecture, c'est une expérience de langue, de corps, c'est tombeau pour 100 000 soldats, longtemps j'ai dit 30 000 soldats, je sais pas, vous me dites si je me trompe.
C'est 300 000, effectivement.
Et le livre avec lequel j'ai un rapport très très singulier, c'est Prostitution, en fait. Mais ça, c'est venu un peu plus tardivement. Et bizarrement, par exemple, dans un livre comme 1993, livre littéraire, donc, où j'évoque mon enfance tunisienne et. Il y a quelque chose de très singulier dans le dialecte tunisien. C'est une image qu'on a du mal à se faire à l'étranger, mais c'est un langage ordurier d'une richesse absolument inouïe avec des centaines de mots de vocabulaire. C'est-à-dire que quand deux gamins se mettent à s'engueuler, ça peut durer deux heures, quoi, tellement le vocabulaire est riche. Et c'est vraiment de la poésie, mais c'est une poésie qui ne sera jamais, pour des raisons culturelles, écrite. C'est-à-dire y a une espèce de barrière qui serait vraiment passionnante à interroger au niveau symbolique, qui fait que tout ce langage, tout ce dialecte ne peut exister que dans les rues. Et dans ma langue littéraire, notamment dans 93, j'ai essayé de m'inspirer, pas directement de cette langue-là, parce que ça m'était impossible, c'est impossible à qui que ce soit, parce qu'il faudrait écrire cette langue, simplement dans les pays musulmans, arabes, cette langue ne pourrait évidemment pas être publiée, ou alors bon, vous finissez en prison, torturé, ou en exil, mais en exil, personne ne lit vos livres, parce que c'est dans cette langue dialectale. Mais justement, le mouvement qu'il faut suivre, et là, c'est plus philosophique à mon raisonnement, c'est est-ce que cette langue n'existe pas justement d'être interdite ? C'est-à-dire, est-ce que ce dialecte n'est pas aussi riche ?
Interdit.
Si vous voyez, par exemple, le rap américain, enfin, le langage ordurier américain, fuck, motherfucker, enfin, tout est, c'est langagé, schroom, tout est à la racine de fuck. Mais précisément, c'est parce que ça peut passer dans le domaine public. On peut en faire des disques, des livres, on peut le dire. Et du coup, le langage ordurier est assez pauvre. Alors, il y a cette trajectoire tellement singulière de Guyota, et je me suis aperçu dans Procession, d'ailleurs si j'avais pu lire des extraits, je vous avais prévu, mais je ne pourrais pas le faire malheureusement, de Procession, capter ce langage dialectal des rues, c'est-à-dire c'est un mélange absolument invraisemblable d'arabe, de français, d'autres langues encore, allemand, italien, mais essentiellement racines arabes et français, et il n'y a que dans le livre « Prostitution » de Guyota où son langage est à ce point-là, même s'il a continué après à en garder quelque chose. Mais son langage, il y a encore des glissements. C'est dans « Prostitution » que ce côté dialectal arabe est très très présent. D'accord. En sorte que j'ai un rapport à la lecture à haute voix de ce texte qui est très fort, parce que évidemment je parle arabe, j'ai appris à écrire et l'arabe avant le français, et à lire l'arabe avant le français, et par ailleurs, il y a ce langage des rues. Et à ma connaissance, le seul livre, très bizarrement, qui ait capté ce dialogue des rues, c'est Prostitution de Guyota. En sorte que je lis ça, je peux le dire très bien, parce que j'ai l'accent, et qu'en même temps, j'ai aucun mal avec cette espèce de mélange que presque personne ne peut lire, tout le monde trouve ça rebutant, enfin. Moi, j'ai beaucoup d'aisance avec cette langue-là, bizarrement. Que c'est le langage vraiment des gamins des rues en Tunisie. Je me souviens très bien.
Vous en avez très bien parlé, effectivement.
Je faisais la lecture à une de mes compagnes il y a des années, et au bout de quelques pages, elle allait vomir, quoi, tellement c'était violent.
C'était violent, ouais.
Voilà mon rapport à Guyota. Oui.
Alors, vous avez parlé de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là, par rapport à la littérature qui pense. Parce que vous avez quand même effectué un grand bouleversement dans votre œuvre. Vous êtes passé du roman au texte philosophique. Et moi, je cherche à m'expliquer pourquoi il y a eu ce changement-là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de vous emparer de la littérature et de penser avec la littérature, comme a pu le faire, par exemple, Blanchot. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette nécessité de penser et pour penser de passer par le texte philosophique et quelque part d'abandonner le roman, enfin, ou du moins la littérature, quelque part pour aller vraiment vers des textes ouvertement philosophiques, mm-hmm, qui vous permettent de mieux élaborer une pensée. C'était nécessaire.
Voilà, c'est un mouvement de nécessité qui, encore une fois, il y a strictement rien de réfléchi. Ça s'est fait comme ça. Je peux pas en dire beaucoup plus. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Parce que
il m'arrive, pour être des raisons subjectives, de penser à la littérature, c'est-à-dire de me dire, mais précisément, je ne peux pas en dire plus, parce qu'en dire plus, ça serait déjà commencer à écrire le livre. Et précisément, si je veux écrire le livre, c'est parce que rien d'autre que ce livre-là, littéraire, s'entend, ne pourrait dire ce que j'ai à dire. Mais à chaque fois, je repousse l'échéance, je me dis que c'est pas le moment, que j'ai autre chose à faire. Je peux pas m'expliquer beaucoup plus à ce sujet.
D'accord.
Ou alors, il faudrait vraiment entrer dans des détails tellement complexes que, oui, ça n'en vaut pas la peine. C'est vraiment un mouvement de nécessité. Un moment arrivera, j'en suis sûr, ou peut-être même de manière pas forcément publiée, mais il y aura littérature, ça c'est incontestable. D'accord. Maintenant, pourquoi pas je ne peux pas répondre à cette question sans...
C'est du domaine...
commencer à écrire le texte littéraire.
Voilà, c'est du domaine tellement de la nécessité que oui,
voilà.
C'est...
Dans les deux sens. Dans les deux sens.
Ouais, tout
donc,
à fait.
La nécessité, je me dis non, continue dans cette direction, mais il y a un moment de nécessité parfois où je me dis ça suffit, il faut que tu écrives des confessions ou des choses comme ça, mais pas forcément des confessions. Il faudrait que tu fasses un roman sous pseudonyme. Ou... Donc, le mouvement me traverse. Le problème, je ne peux pas en dire plus sans vendre la mèche
et sans l'écrire.
Et commencer à écrire ouais, ce livre qui n'est pas écrit tout en commençant à l'écrire.
Ouais. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de littérature avec ce soir en invité Émilie Bellache-Cassem au téléphone. Alors faisons un petit glissement et abordons, si vous le voulez bien, la question de la langue. Mm-hmm. Parce que la langue que vous utilisez dans vos textes a beaucoup changé. Cette langue sauvage de vos romans, c'est considérablement transformé. On y retrouve parfois même un même ton. On sent toujours votre parole, on sent toujours votre voix derrière l'écriture. Mais il y a des différences incroyables entre Cancer et vos deux derniers livres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est sûr que c'est quelque chose de long. Ça a pris une bonne dizaine d'années. Mais outre le fait que ça, vous passez du roman à la philosophie, votre langue est plus du tout la même, presque.
Il y a le fameux mot Deleuze, déterritorialisation, ça va avec schizophrénie, ce qui fait que c'est que tout récemment que je commence à réussir à faire le point et à me dire qu'il y a une espèce de continuité dans tout ça. Là encore, rien n'a été fait de manière réfléchie, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de nécessité qui... Ça remonte à plus loin hein, que ces deux livres. À chaque livre, il y a un changement de style. Moi, c'est à chaque livre, à chaque fois, j'entreprends un nouvel ouvrage, que je change le style. Je me souviens quelque chose qui m'avait... fait rire, c'était Houellebecq qui disait « Ah, j'aime beaucoup les écrivains », qui disait dans la quinzaine littéraire « J'aime les écrivains qui changent souvent de style comme Nietzsche et... » Et moi je me suis dit bah, « c'est exactement ce que lui il fait pas », c'est-à-dire quand on lit ses livres, c'est toujours les trois mêmes ficelles qui sont mises à l'œuvre. Sans cela dit particulièrement m'en vanter, ça fait longtemps qu'il y a ce mouvement de livre en livre de
tout à
de
fait
changement quand même.
Même au sein des derniers, parce que les deux derniers livres, ils surprennent presque par rapport à Society. Je trouve que votre langage est beaucoup plus, votre langue est beaucoup plus apaisée, le vocabulaire est beaucoup plus simplifié. Est-ce que votre écriture, est-ce qu'elle s'est oralisée?
Elle s'est oralisée pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire...
Pour le séminaire, oui, tout à fait.
Pour la position d'énonciation qui est celle d'un séminaire. Et pour le prochain livre, quand il y aura un prochain livre, le style changera encore. Voilà, c'est quelque chose qui, pour une raison... Donc, pour une raison, une fois de plus, de nécessité, j'ai besoin d'expérimenter un nouveau style à chaque livre. Alors, pour des raisons, après, sous-jacentes, extrêmement complexes, mais...
C'est-à-dire que le lecteur peut faire des paris. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années qui séparent Society, qui était votre dernier grand livre, des deux récents Événements et répétitions et l'affect. Et quand j'ai appris qu'il sortait avant de les lire, je m'étais fait un petit pari intérieur. Je m'étais dit, est-ce que je vais y trouver quelque chose d'encore plus compliqué au niveau du vocabulaire, au niveau de la syntaxe? Et j'avais fait le pari que oui. Et en fait, j'étais très surpris de découvrir que non, au contraire. Je trouvais que votre langue était beaucoup plus limpide et même que la manière dont vous écrivez était didactique. Oui, ça pourrait être ça, didactique peut-être, que vous êtes beaucoup plus didactique.
Didactique, antiscolastique, disons. C'était une manière de... Je pars du principe que... je veux pas faire de la philosophie vulgarisée ou voilà, je, ce qu'on appelle les philosophes médiatiques. La preuve, c'est que bon, j'ai pas.
Vous êtes pas médiatique.
Non, voilà, je savais pas comment le dire.
Enfin, on vous voit nulle part. La preuve, vous faites vos séminaires entre amis, donc c'est,
oui.
Voilà, ça. Oui, mais il y a tout un aspect souterrain dans vos textes chez vous qui se sent bien là aussi, quoi.
Pardon.
Un côté, je disais qu'il y avait un côté souterrain qui se sent bien.
Oui, oui, il y a une sorte d'underground philosophique ou de.
Mais tout de même, on trouve un aspect beaucoup plus didactique dans ces deux derniers livres.
Parce que la philosophie est didactique quand même. C'est-à-dire, ça correspond à mon expérience. C'est vraiment didactique, anti-scolastique. C'est, s'il faut une image, c'est vrai que voilà, c'est la philosophie de rue, comme les jazzman faisaient du free jazz dans la rue. Enfin, plus jamais de jazz pour faire danser les blancs. Albert Ayler. Voilà, une sauvagerie philosophique à condition d'ajouter ce souvenir que ça doit être philosophique, donc ça doit être de la philosophie. Donc l'oralité, la clarté, quelque chose comme esthétique du chaos était beaucoup plus une performance dans esthétique du chaos aussi. S'il y avait une référence musicale, ce serait plus les concerts de Tweaky qui m'impressionnaient extraordinairement à l'époque. Et j'en garde toujours un souvenir illuminé. Donc, quelque chose, on est encore sur une scène. Mais Tweaky donnait à ce moment-là, et je pense que c'est du chaos, il y avait quelque chose de ça. Il était sur une scène tout en donnant l'impression qu'il n'en avait pas conscience. Tout en étant conscient. Et c'était ça le mouvement très performatif en un sens positif du terme, une performance parce que quand on voyait ses concerts de Tweaky, il mettait sa peau sur la table.
Et alors ce côté...
c'était quelque chose de vital, c'était pas une performance, c'était précisément le spectacle pour arrêter tous les spectacles. Alors qu'ici, il y a quelque chose de sans doute plus doux dans le ton, mais ce qui est violent, c'est violent, je peux vous le dire quand même, pour un certain nombre de philosophes qui sont pas habitués
à ça.
Ils sont dans une routine.
Tout
où
à fait.
Ce mode didactique-là les choque.
Et il y a peut-être aussi quelque chose qui les choque, c'était ma dernière question sur la langue, parce que il y a quelque chose que je trouve qui ne change pas de l'écriture de vos romans jusqu'à l'écriture de vos textes philosophiques, c'est que vous êtes toujours présent dans les textes philosophiques, notamment encore plus, je trouve, dans ces deux derniers textes. Il y a de l'humain, enfin il y a de l'ironie, il y a du détachement aussi, puis vous êtes vraiment vraiment dedans, et c'est vrai que c'est pas forcément ça que un philosophe va attendre d'un livre de philosophie, par exemple. Ça fait presque la manière dont vous écrivez. Des fois, ça peut paraître vraiment décalé par rapport à l'écriture de la philosophie, mais en même temps, votre propos, il est très sérieux, il est très savant, et il est très différent c'est très différent du registre de langue que vous utilisez. Et ce registre de langue que vous utilisez, ma question, c'est ça, c'est, est-ce que c'est pour dynamiter la philosophie, encore une fois ? Est-ce que c'est pour dynamiter la philosophie, ce registre de langue que vous utilisez ?
Oui, il y a quelque chose de ça. Il y a un jeune philosophe que par ailleurs, j'estime beaucoup, qui fera parler de lui et qui a eu des difficultés de lecture. Et à un moment, il m'a dit, lu à la bonne vitesse, ça passe. Enfin, il parlait surtout de événements et répétitions, et je peux comprendre très bien les difficultés qui sont les siennes, mais très bizarrement, alors là, c'est un peu ce que... Ça serait presque de mauvaise foi de ma part de citer ça, parce que... parce que j'aime pas non plus cet argument qui consiste à dire « Ah, mais les non-philosophes, eux, ils lisent très facilement. C'est ce que Deleuze disait sur l'anti-Oedipe. Il disait, ah, c'est bizarre, les psychanalystes n'y comprennent rien, alors que des gens qui expérimentent dans leur coin, ils comprennent très bien. N'empêche que il y a quelque chose de ça, et comme c'était le but un petit peu de ces livres, l'autre but était justement de rencontrer, d'agréger, de libérer alors je parle à Radio Campus, donc je ne sais pas les conséquences de mes paroles, mais non, de libérer des gens qui font de la philosophie, qui l'ont quitté, qui sont en marge par rapport à la philosophie, par frustration, impossibilité, enfin de... Et je vois que mes deux livres, par contre, a déclenché une libération aussi de ces gens-là. Donc d'un côté, il y a des gens qui sont, voilà, arguments presque démagogiques à la Deleuze, oui, des non-philosophes qui sont, ouais, dynamiques. Enfin, comme vous dites, il y a un effet de dynamisation, de désinhibition. Mais d'un autre côté, il y a celui des vrais philosophes qui, comment dire, soit ils sont encore à l'université, soit ils l'ont quitté... mais en tout cas qui ont une énorme frustration par rapport aux normes universitaires, et que ces deux livres ont libéré. Et si j'en crois au moins un des travaux que j'ai eu sous les yeux là récemment, je suis très content, modestement content, d'avoir déclenché un si bon travail. Voilà, c'est je garde toujours cet esprit Badiou vient de publier ce livre qui s'appelle Le siècle. Donc oui, le siècle, c'est tous ces mouvements d'avant-garde, tous ces mouvements musicaux de libération, de créer des mouvements, quoi. Voilà, et là, c'est en train de revenir, un véritable mouvement de résistance, de création, mais cette fois de vrais réseaux, pas les réseaux où on les entend... les réseaux flous, les interdisciplinaires, non, des réseaux tout à fait concrets, d'amitié, de gens qui créent, qui ne sont pas condamnés à la ghettoïsation, à l'autisme, à l'impuissance, parce qu'ils se parlent et qui, en se parlant, en créant de véritables espaces de pensée, communiquent cet espace-là aussi à un public assez vaste. Il faut bien voir que l'arrière-fond de tout ça, on n'en a pas parlé, et publiquement, je sais qu'on est entre amis, les choses sont en construction, et je ne parle pas de politique publiquement, mais c'est évident que c'est politique, à chaque fois qu'il y a à chaque fois le concept, c'est pas une décision subjective, c'est passé entre autres par moi, que le concept sort de l'université, sort de l'institution, sort de l'académie, et ces dernières années, si ce n'est décennies, il y a eu une espèce de grand mouvement de réaction, de retour à la normalisation académique et universitaire, qui en plus philosophiquement n'a pas donné grand-chose, là à nouveau, et de manière peut-être plus violente que jamais, beaucoup plus violente que ça pouvait être le cas dans les années 60 par exemple, il y a un mouvement comme ça de réappropriation, de sortie du concept des lieux pour lesquels ils étaient prévus, et moi je ne suis qu'un lieu de passage de ce mouvement-là. L'arrière-fond de ça, tout ça c'est de la philosophie, c'est la philosophie qui fera de la politique, mais le mouvement lui-même pris dans son intégralité, il faut bien voir qu'il est, il a toujours été, à chaque fois qu'il y a un mouvement politique qui se prépare dans la société, il y a toujours ce mouvement de sortie de la pensée hors des quatre murs, de l'Auguste Académie, et je dis ça sans le moindre, je le précise, ressentiment envers quelque académie que ce soit. Quoi. Je n'éprouve aucun complexe, aucun ressentiment envers l'université. Ça pouvait être encore peut-être le cas, pas de ressentiment, mais de complexe il y a, je sais pas, 6-7 ans. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Il y a un espace qui va se créer de pensée absolument... utilisons les vieilles métaphores, autonome, indépendant, underground, tout ce qu'on veut. Je le vois. Et ça a été le fruit d'un long travail, de beaucoup d'assises, etc. Mais c'est un immense plaisir que de voir ce mouvement en train de se créer,
de se construire.
Lumière médiatique et de manière très saine, très joyeuse. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle.
Eh ben, je vous remercie beaucoup, Mehdi Belhaj Kassem.